Bonjour à tous. La progression de l'épidémie de coronavirus. Quatre nouvelles métropoles passent en alerte maximale aujourd'hui. Lille et le Nord avec la crainte d'un engorgement des hôpitaux. Grenoble, Lyon et Saint-Étienne où le maire dénonce un manque d'anticipation du gouvernement. Inacceptable pour Gaël Perdriau, vous l'entendrez. Paris appelle au strict respect du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Un cessez-le-feu en vigueur depuis ce matin. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de ne pas respecter l'arrêt des combats. Donald Trump repart en campagne. Le président américain fera sa première apparition publique aujourd'hui à la Maison-Blanche, malgré des doutes sur son état de santé. Dans ce journal également, les questions que soulève la libération de Sophie Petronin. Pierre Heidenbaum, mis en examen pour viol et agression sexuelle, il doit démissionner de son mandat de conseiller de Paris. Et nous irons à Lyon pour le festival Lumière avec notre invité Thierry Frémaux, directeur du festival. La météo de ce samedi, des averses et une baisse des températures. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, Jacques Monin et Secret d'Info. Au programme aujourd'hui, Jacques.
Eh bien, une enquête sur le prestigieux club de natation de Mulhouse. Il est en conflit avec plusieurs anciens nageurs, mais surtout sa gestion pose question au point que la justice a récemment ouvert une enquête.
Secret d'Info, Jacques Monin à 13h20.
France Inter.
La progression préoccupante de l'épidémie de coronavirus après Aix-Marseille et Paris. Quatre autres villes, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne et Lille, sont depuis ce matin en zone d'alerte maximale, ce qui signifie de nouvelles restrictions et notamment la fermeture des bars. Cette dégradation de la situation épidémique fait craindre un risque d'engorgement sanitaire. Les hôpitaux doivent se préparer à un afflux de malades du coronavirus. Dans le Nord et à Lille, les hôpitaux font pour l'instant face à la progression de la maladie. Reportage à Lille, Claire Mesureur.
Alors c'est un constat à nuancer toutefois, parce que s'il est vrai que le CHU de Lille n'est pas complètement saturé par les patients Covid, les hôpitaux de Roubaix et Tourcoing sont quant à eux confrontés à une affluence, notamment de personnes âgées. Mais globalement, Frédéric Boiron, le directeur du centre hospitalier lillois, est plutôt rassurant.
On ne peut pas parler de submersion des établissements de santé. Nous sommes parfois, pour certains, dans des situations tendues, mais ça arrive à d'autres moments de l'année qui ne sont pas liés au Covid. Globalement, un système hospitalier qui est encore en mesure de répondre aux demandes.
Pour autant, précise le directeur du CHU, il ne faut pas baisser la garde. En clair, les mesures restrictives qui viennent d'être prises pourrait permettre d'éviter le pire et notamment une nouvelle saturation des services de réanimation.
On peut avoir l'impression que c'est très contraignant de prendre des mesures restrictives de liberté. Faut-il attendre que nos services soient saturés pour se rendre compte que nous avons une responsabilité collective ?
À Lille, ce sont 66 patients Covid qui sont accueillis et 21% des lits de réa qui sont occupés.
Claire Mesureur de France Bleu Nord. Et ce risque d'engorgement dans les hôpitaux pour justifier l'alerte maximale, notamment à Saint-Étienne, suscite l'irritation de Gaël Perdriau, le maire Les Républicains de la ville. La mesure annoncée par le gouvernement arrive trop tard. Il y a, dit-il, un manque d'anticipation. Gaël Perdriau avec Julien Langlais.
La situation est grave, nous avons une centaine de personnes aujourd'hui hospitalisées, une trentaine en réanimation, mais vous savez, au mois d'avril, il y avait 500 lits d'hospitalisation et il y avait 180 lits en réanimation. Donc, moi je pose la question, est-ce que le ministre de la Santé a mis à profit ces 6 mois d'accalmie de la Covid pour adapter les lits dans les hôpitaux, pour être aujourd'hui en mesure à la fois de soigner les malades du Covid et de soigner ceux qui sont malades d'une autre pathologie ? Olivier Véran a débloqué 50 millions d'euros pour ouvrir 4000 lits d'urgence. Eh bien, pourquoi ne l'a-t-il pas fait au mois de mai ? On aurait 6 mois d'organisation, nous aurions pris de l'avance. Pourquoi faut-il encore une fois, alors que cette deuxième vague était annoncée par le gouvernement, faut-il qu'il agisse dans l'urgence ? Il y a un manque d'anticipation qui est inacceptable.
À l'étranger, le cessez-le-feu est entré en vigueur dans le Haut-Karabakh après 15 jours d'intense combat. Le calme est soudain revenu à Stepanakert, la capitale autoproclamée de cette enclave séparatiste. Les combats se sont poursuivis jusqu'à la dernière minute avant le cessez-le-feu, conclu avec la médiation de la Russie, mais la situation reste confuse. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu. Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est un cessez-le-feu très fragile qui a été conclu hier à Moscou après plus de 10 heures d'âpres négociations. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la trêve qui est entrée en vigueur ce matin a une vocation humanitaire. Elle doit permettre aux belligérants de procéder à l'échange des prisonniers et de rapatrier les corps des soldats défunts. Bakou et Yerevan se sont en outre engagés à poursuivre leurs négociations en vue d'une résolution pacifique du conflit au sein du groupe de Minsk de l'OSCE. Les détails pratiques du cessez-le-feu seront discutés dans les jours qui viennent au sein de cette instance, co-présidée par la Russie, les États-Unis et la France. Après une dizaine de jours de combats meurtriers qui ont fait plusieurs centaines de morts de part et d'autre, cette première rencontre entre responsables arméniens et azerbaïdjanais constitue un progrès, mais la poursuite des combats illustre la longueur du chemin qui reste à parcourir pour trouver une solution politique à ce conflit qui a vu le jour au début des années 1990 lors du démembrement de l'Union soviétique. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Aux États-Unis, malgré des doutes sur son état de santé, Donald Trump est déterminé. Il repart en campagne. Le président américain, testé positif au coronavirus et hospitalisé le week-end dernier, a expliqué cette nuit qu'il avait arrêté de prendre des médicaments. « Je me sens, dit-il, vraiment très fort », a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne américaine Fox News. Et Donald Trump fera sa première apparition publique aujourd'hui à la Maison-Blanche, Benjamin Fontaine.
Depuis le balcon de la pelouse sud de la Maison-Blanche, pour respecter les règles de distanciation physique, Donald Trump va s'exprimer devant quelques centaines de personnes sur le thème de la sécurité, son thème favori. Chaque invité devra être masqué, ce qui n'est pas toujours le cas dans les meetings du président. Les services de sécurité prendront la température des participants à l'entrée. Ils répondront à un questionnaire de santé, ces participants. Mais il reste une grande incertitude. Donald Trump est-il en état d'assurer ce meeting ? Lui assure que oui, il va très bien, il le répète à qui veut l'entendre, mais depuis jeudi soir, il n'y a plus aucun bulletin officiel de santé. On ne sait même pas s'il a de nouveau été testé positif ou négatif au Covid. Le président ne s'arrête pas là, puisque lundi, il participera à un autre rassemblement à Sanford, en Floride. Donald Trump trépigne à l'idée de retourner sur le terrain. Il faut dire qu'il y a urgence. Il est désormais dominé d'une dizaine de points par Joe Biden dans les sondages.
Benjamin Fontaine, merci. Par ailleurs, le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden, prévu jeudi prochain, a été annulé. Ce débat devrait se tenir sous la forme d'une rencontre. Il devait se tenir sous la forme d'une rencontre virtuelle, une formule refusée par Donald Trump. Le dernier débat est programmé le 22 octobre prochain et il est maintenu. Peu après la libération de Sophie Petronin, on a appris la mort d'une otage suisse enlevée il y a 4 ans comme Sophie Petronin. La missionnaire suisse aurait été tuée par ses ravisseurs il y a environ un mois. Sophie Petronin, la dernière Française retenue en otage, est donc rentrée en France hier. Elle a retrouvé sa famille. Les autorités se sont réjouies du retour de Sophie Petronin, mais les coulisses de cette libération soulèvent de nombreuses questions. Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon avec Jules Dequisse.
La libération de Madame Petronin est évidemment une bonne nouvelle pour elle-même et pour ses proches. Mais, il y a un mais, je m'interroge sur les conditions dans lesquelles le nouveau pouvoir malien a obtenu la libération, non pas d'ailleurs de Madame Petronin seulement, mais aussi d'une figure de la vie politique malienne. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de constance. Notre objectif stratégique, c'est d'annihiler les djihadistes. Et donc, il faudra expliquer sereinement devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale ce qui s'est réellement passé.
Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon. Pierre Heidenbaum ne peut plus se rendre à l'hôtel de ville de Paris. Anne Hidalgo demande à son ex-adjoint à la mairie de démissionner immédiatement de son mandat de conseiller de Paris. Âgé de 78 ans, placé en garde à vue, il a été mis en examen hier soir pour viol et agression sexuelle. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à la mairie. C'est la deuxième démission sur fond de scandale sexuel à laquelle est confronté l'exécutif parisien après les municipales et la démission début juillet de Christophe Girard, adjoint à la culture. Dans cette affaire visant Pierre Heidenbaum, tout est allé très vite, Corinne Audouin.
Tout a commencé il y a moins d'un mois, le 14 septembre. La mairie de Paris alerte le parquet. Une collaboratrice de Pierre Heidenbaum, adjoint chargé de la scène auprès d'Anne Hidalgo, l'accuse de faits possiblement qualifiables de harcèlement sexuel. Le jour même, le parquet de Paris ouvre une enquête. Pierre Heidenbaum se dit alors abasourdi et effondré. Par la voix de ses avocates, il assure que cette relation n'avait rien de délictuel et demande à être entendu le plus rapidement possible. Jeudi dernier, il est placé placé en garde à vue et confronté à la femme qui l'accuse, une collaboratrice qui travaille avec lui depuis de nombreuses années. Il est finalement mis en examen, non seulement pour agression sexuelle par personne ayant autorité, mais également pour viol. Laissé en liberté sous contrôle judiciaire, Pierre Heidenbaum, âgé de 78 ans, a l'interdiction d'entrer en contact avec cette femme. Dans un communiqué, son avocate, Maud Twitou, indique que Pierre Heidenbaum est très éprouvé par les faits qui lui sont reprochés et la souffrance exprimée par son accusatrice.
Corinne Audouin. Et à Lorient, le premier adjoint à la mairie, Gaël Le Fur, a été mis en examen hier soir, et mis en examen pour viol et écroué. La gauche se mobilise pour 2022 dans une tribune. 2022 en commun, des élus et activistes de gauche appellent à une candidature commune pour la présidentielle basée sur un projet de transformation écologique et sociale de rupture. Il faut, disent-ils, se mettre au travail ensemble pour définir un projet alternatif à celui du gouvernement. Damien Carême, député européen, Europe Écologie Les Verts, est signataire de la tribune avec Édouard Marguier.
Je pense qu'il y a quand même quelque chose de commun à travers ce que défend la France insoumise, à travers ce que défend une partie du Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et certains plus au centre derrière. Je crois en l'intelligence de ces hommes et de ces femmes politiques de gauche. Je les connais à peu près tous. Oui, aujourd'hui, ça fait un peu combat de coq, mais je pense qu'à l'arrivée, il faudra qu'on ait conscience que le risque, c'est de rejouer le match Macron-Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Je pense que les mouvements de jeunesse, les mouvements pour le climat, tout ce que l'on voit aujourd'hui qui se déroule en France, il y a une vraie prise de conscience. On l'a vu avec le résultat aux élections européennes, on l'a vu avec le résultat aux élections municipales. Je pense qu'on peut y arriver, oui.
Damien Carême avec Édouard Marguier. Week-end de finale à Roland-Garros. Nadal Djokovic demain, mais aujourd'hui, les projecteurs seront braqués sur la finale femme entre l'américaine Sofia Kenin et la polonaise Iga Swiatek, 19 ans. En direct de Roland-Garros, on retrouve Jean-Pierre Blimaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Frédéric.
Alors, une affiche qui aurait pu être qualifiée d'affiche surprise au début du tournoi, mais depuis, on a vu les deux joueuses à l'œuvre et leur parcours est impressionnant.
Oui, notamment Iga Swiatek, cette jeune joueuse de 19 ans qui dispute des tournois du Grand Chelem depuis seulement 2 ans. Elle n'a jamais dépassé les huitièmes de finale dans cette catégorie de tournois. Elle a joué les huitièmes à l'Open d'Australie cette année et à Roland-Garros l'an dernier. Elle est 54e au classement mondial. Elle a taillé sa route dans un tableau qui n'était pas simple, et notamment en huitièmes de finale, elle a battu Simona Halep, victorieuse à Roland-Garros il y a 2 ans, avec la manière 6-1-6-2. Cette Polonaise n'a pas tremblé non plus en demi-finale lorsqu'elle s'est débarrassée de l'Argentine Nadia Podoroska, l'une des révélations de la quinzaine. Alors aujourd'hui, elle aura fort à faire face à la 6e joueuse mondiale, Sofia Kenin, au mental d'acier, qui a gagné l'Open d'Australie au début de l'année et qui s'affirme à 22 ans comme l'une des valeurs montantes du tennis féminin. Et si l'une ou l'autre joueuse s'impose à Roland-Garros tout à l'heure, ce sera de toute façon inédite pour l'une ou l'autre des joueuses. Actuellement, sur le court 14, il faut savoir qu'une jeune Française de 17 ans dispute la finale du tournoi junior. C'est Elsa Jacquemot. Elle, pour l'instant, est dans le premier face à la Russe Sharaeva. Les deux joueuses en sont pour l'instant dans la première manche, mais il faut savoir que la Lyonnaise a au bout de la raquette une victoire qui serait une première pour le tennis féminin tricolore, puisque la dernière à s'être imposée dans cette catégorie, c'est Kristina Mladenovic en 2009.
Merci Jean-Pierre Blimaud en direct de Roland-Garros. Et on va parler cinéma maintenant. On va à Lyon, Festival Lumière, 12e édition, avec une triple actualité cette année. Le prix Lumière pour les frères Dardenne, le centenaire de la naissance de Michel Audiard, et on célèbre également les 125 ans de l'invention du cinéma à Lyon. Invité de ce journal, Thierry Frémaux, directeur du Festival Lumière. Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Alors Lyon est depuis ce matin en alerte maximale en raison de la progression de l'épidémie de coronavirus. Est-ce que cela change l'organisation prévue? Avez-vous pris des mesures supplémentaires de protection?
D'abord, on travaille beaucoup avec la préfecture, avec la mairie de Lyon, la communauté urbaine, la métropole, pour bien affiner et rendre cohérentes un peu toutes les décisions nouvelles qu'on doit prendre, en effet. Donc on a limité les salles à 1000 personnes. On avait quelques grandes soirées qui d'habitude rassemblent plusieurs milliers de personnes, ça sera pas plus de 1000. Et puis, depuis le 22 juin, dans les salles françaises, il y a des séances de cinéma, donc ça ne change pas. Limitation de la jauge, port obligatoire du masque. Et puis surtout, ce qui nous inquiétait, c'était les restaurants. D'abord pour eux, pour cette catégorie de professionnels en France qui comme pour le cinéma, est pas logé à bonne enseigne, mais qui l'est. Mais surtout, il fallait qu'on puisse nourrir nos invités qui viennent d'ailleurs que de Lyon et parfois de l'étranger. Et donc ça, c'est possible. Et voilà, on a tout adapté, tout va bien.
Cette année a été difficile avec le confinement, la fermeture des salles. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis l'invention du cinéma en 1895, une fermeture de salles.
Oui, c'est ça. C'est il y a 125 ans, en 1895, donc Lumière, y compris, gagne, si j'ose dire, contre Thomas Edison, qui ne croyait pas à la salle de cinéma. C'est vraiment une invention de Louis Lumière. Et la première, c'est Paris, 28 décembre 1895. La deuxième, c'est Lyon, 25 janvier 1896. Et en effet, même deux guerres mondiales n'avaient pas fermé les portes des cinémas, alors que là, un virus le fait, l'a fait pendant 3 mois. Et c'est pas tant que pendant 3 mois, les salles ont fermé. C'est que dans de nombreux pays à l'étranger, elles n'ont toujours pas rouvert leurs portes. En France, les spectateurs reviennent de plus en plus, et ça permet quand même de permettre pas seulement aux cinéphiles, mais puisqu'on nous dit il faut que la vie continue et il faut apprendre à vivre avec ce virus, eh bien les gens de cinéma ont appris et les films sortent. Il y a plein de beaux films à voir en ce moment. Moins de films américains parce que là-bas la situation est catastrophique et ils ne sortent pas leurs films, mais on se souviendra d'une année particulière. Ouais.
C'est, il faut peut-être le signaler, il n'y a pas de cluster dans les cinémas. On n'en a pas répertorié, on n'en a pas enregistré, on n'en a pas trouvé.
Oui, je crois qu'il y a plus de 15 millions de personnes qui sont allées au cinéma depuis le 20 juin. Il y a des milliers et des milliers de séances. Et en fait, bah, de toute façon, on n'attrape pas le virus par le cou. Et même si quelqu'un derrière vous éternue très fort, d'abord il aura un masque et ensuite il ne risque pas de vous contaminer. D'autant que on ne parle pas au cinéma et que c'est ça aussi qui produit des postillons qui pourraient être contaminants. Ça n'est pas le cas et en effet, on peut vivre dans une salle de cinéma, c'est là qu'on est le plus en sécurité.
Alors Thierry Frémaux, justement, le cinéma, le Festival Lumière, c'est un festival sans jury, sans pression, pour les cinéphiles, pour l'amour du cinéma.
Oui, c'est ça, c'est que dans la ville natale du cinéma, avec Bertrand Tavernier, on s'était dit, quoi de mieux que de porter un regard rétrospectif et actif, si j'ose dire, sur le cinéma d'avant, sur le cinéma contemporain, c'est-à-dire que lorsqu'on accueille Viggo Mortensen parce qu'il sort son nouveau film qui s'appelle Falling, qui fait partie de la sélection du Festival de Cannes, on se dit, puisqu'on l'a, on va aussi montrer les films qu'il a fait. Oliver Stone qui vient montrer une copie restaurée de Né un 4 juillet et qui sort ses mémoires, eh bien on se dit qu'on va profiter de l'avoir pour échanger avec lui. Et puis d'un autre côté, il y a du cinéma muet, il y a des trésors, des archives du monde entier qui nous sont envoyés chaque année. Et puis les grandes perspectives, c'est Joan McLean Silver, qui est une cinéaste indépendante new-yorkaise, et puis Michel Audiard, en effet, dont on aurait célébré les 100 ans.
Et donc ce Festival Lumière aura aussi un petit goût de croisette. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général du Festival de Cannes également.
Oui, on avait promis d'accompagner les films de Cannes. Je l'ai fait beaucoup à Deauville, à Saint-Sébastien, je le ferai bientôt à Rome, etc. Et puis, évidemment, j'ai changé de casquette et on a décidé avec toute l'équipe d'organisation du Festival Lumière de faire une large place à ces avant-premières, parce que Cannes n'ayant pas eu lieu, Cannes donnait une sorte d'élan. Et puis on connaissait les films, bon ben là les films font des tournées, et de nombreux artistes seront là, de Laurent Lafitte à Canberra, de Thomas Vinterberg à 23 en tout films, seront là pour rencontrer le public, parce que comme c'est un festival où il y a beaucoup de public, et où il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de critiques, c'est aussi une façon de donner un peu le coup d'envoi de la deuxième étape, après le début de l'automne, celle qui va nous mener jusqu'à Noël, et qui va voir plein de très très bons films sortir dans les salles.
Et notamment les studios Pixar qui viennent présenter, c'est un événement, leur dernier film Soul.
Oui, absolument. Les Américains, aujourd'hui, ont sorti Tenet, le film de Christopher Nolan, qui a très très bien marché en France, qui est d'ailleurs toujours qui est toujours en affiche. Mais c'est sûr que les Américains, en ce moment, ne sortent pas leurs films. Les salles sont fermées à New York, elles sont fermées à Los Angeles. On dit que Disney, on ne dit pas, Disney a annoncé qu'ils seront obligés de licencier des milliers de personnes. Les parcs sont fermés, les salles sont fermées, les salles de spectacle sont fermées. Et il y a encore des artistes qui peuvent présenter leurs films.
Début aujourd'hui du Festival Lumière à Lyon, Thierry Frémaux, directeur du festival, interview réalisée un peu plus tôt dans la matinée. Et on termine ce journal avec la prescription culture pour le week-end. Nous partons à la Villa Savoie, construite par Le Corbusier à Poissy, près de Paris. Cette villa figure sur le patrimoine mondial de l'UNESCO et le Centre des Monuments Nationaux a donné carte blanche à l'artiste Françoise Petrovitch pour intervenir dans cette villa. Le résultat, Isabelle Pasquier, est étonnant.
Sur ces pilotis, la Villa Savoie, c'est une villa iconique, un manifeste d'architecture de Le Corbusier qu'il qualifiait de machine à habiter. Sauf que la villa était inhabitable. Problème d'infiltration avec les toits-terrasses, elle se transforme en micro-ondes l'été et en congélateur l'hiver. Et dans cette architecture moderniste plutôt froide, l'artiste Françoise Petrovitch a glissé son imaginaire débordant avec de la poésie et même quelques délires surréalistes.
J'avais envie de donner la vie à la villa, c'est-à-dire des présences, des choses assez quotidiennes et en même temps, voilà, le plaisir aussi de la couleur, d'être vraiment dans un lieu assez exceptionnel au niveau de la lumière.
Dans le grand salon, le portrait d'une jeune fille qui joue sur la transparence avec les immenses baies vitrées. Suite de la visite dans la cuisine laboratoire.
Donc cette cuisine qui est complètement blanche est là. Oui, il y a un poulpe dans l'évier. Un gros chat qui a l'air de ronronner. Et puis le passe-plat qui est un petit peu cruel avec un oiseau mort et les mains coupées. On est dans la salle de bain entre la chambre du fils et la chambre d'amis. Et j'ai installé une vidéo qui s'appelle Panorama, un mini paysage qui apparaît juste au-dessus de la robinetterie.
Exposition habitée la Villa Savoie à Poissy jusqu'au 24 janvier, le temps de ce samedi.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Jean-Michel Golinski.
La fraîcheur s'accentue cet après-midi. Les températures maximales vont afficher 14 à 16 degrés au nord de la Loire et en Rhône-Alpes, 18 près de la Garonne, 20 à 22 sur le bassin méditerranéen. Seul secteur qui va rester à l'abri des averses sous un ciel bien bleu, mais au prix d'un mistral et d'une tramontane turbulent. Sur les autres régions, les ondées souvent concentrées ce matin sur un axe Pyrénées-Nord des Alpes avec de la neige en moyenne montagne vont se généraliser à peu près à l'ensemble des régions cet après-midi sous un ciel de plus en plus changeant. Demain, les températures vont encore baisser d'un cran avec du soleil du golfe du Lion à la vallée du Rhône, mais beaucoup de vent dans le domaine du Mistral, de la Tramontane et des rafales d'ouest sur la Corse jusqu'à 100 km par heure. Et globalement, un régime d'averse sur une grande partie du pays, parfois mêlé de coups de tonnerre, avec de la neige à partir de 1300 mètres sur les massifs et une plus forte activité neigeuse sur les Pyrénées.